Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Je choisis une femme en prenant des risques.
Cinextenso.
Non !
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démette la gueule.
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso, sur Divergence FM.
Une bouteille à la mer de Thierry Binisty. Alors Tal, lycéenne à Jérusalem, donne à son frère une bouteille contenant un message avec pour mission de jeter celle-ci dans la mer de Gaza. La bouteille en question est récupérée par de jeunes Palestiniens, moyennement émus par la lettre qu'elle contient d'une jeune fille juive qui essaye par ce biais de créer un contact au-delà des guerres et des religions. L'un d'entre eux, néanmoins, ne va pas résister à l'envie de lui écrire un mail qui va alors entraîner une correspondance entre les deux adolescents. Passant d'une méfiance brute à la curiosité, puis à l'amitié presque amoureuse, le Palestinien et l'Israélienne vont apprendre à se connaître et se raconter leur vie si différente et pourtant si étroitement liée. Le réalisateur Thierry Binisty se retrouve ici avec la double charge de revenir au cinéma, lui qui officie davantage à la télévision, en adaptant un roman épistolaire. Le film, fluide, rythmé, parsemé d'acteurs crédibles dont Yam Abbas remplit son office d'énième tentative d'approche du conflit israélo-palestinien. Rien de très marquant, cependant, dans cette réalisation banale, empreinte d'une grande sobriété qui repousse l'émotion un peu trop loin. Un film efficace qui ne marque pas pour autant les esprits et se contente d'aborder un thème actuel par le biais d'un scénario classique, la liaison contrariée de deux êtres séparés par la guerre. Alors j'ai rencontré justement à l'occasion de la sortie du film le réalisateur, donc Thierry Binisty, et Valérie Zenati, auteur du roman initial et co-scénariste.
Je m'appelle Tal Levin, j'aurai bientôt 17 ans et j'habite Jérusalem. Hier soir, il y a eu un attentat dans un café près de chez moi. Je ne comprends pas que la vie tienne à ça. Avoir envie ou pas d'aller au café d'en bas.
Par rapport à la toute première scène du film, le fait que ce soit entièrement en bruitage, que l'écran soit noir et justement que ça retranscrive l'attentat uniquement en bruit, pourquoi ce parti pris ?
Parce qu'on est à ce moment-là dans la tête. Enfin, on est avec Tal qui n'y assiste pas, elle l'entend tout simplement. Donc c'est pour traduire au mieux la perception qu'elle a de cet attentat. Elle ne passe pas à côté du café, elle n'est pas dans le café, elle est dans sa chambre et elle entend la déflagration. Donc le spectateur vit ce moment tragique exactement de cette même façon. Et après, le film s'ouvre avec cet événement fondateur, en fait, effectivement, puisqu'après elle décide d'écrire cette lettre, d'envoyer cette bouteille après cet attentat. Et c'est une façon de faire vivre, en fait, au spectateur quelque chose, cette violence aveugle, en fait, qui va frapper. On ne sait où, on ne s'y attend pas. Donc voilà, c'est une façon de traduire un petit peu cette sensation terrible.
À chaque attentat, on entend ras-le-bol des Palestiniens. Mais les Palestiniens, c'est qui ? Toi qui trouveras cette bouteille, réponds-moi à cette adresse. Dis-moi où tu l'as trouvée, qui tu es. Parle-moi de toi, s'il te plaît.
C'est vrai que quand j'ai découvert le livre de Valérie Zenati, Une bouteille dans la mer de Gaza, j'ai tout de suite été séduit par cette possibilité, en fait, de faire vivre aux spectateurs une double situation. En même temps, on pouvait être dans la tête d'une jeune Israélienne et en même temps dans la tête d'un jeune Palestinien. Et ces deux modes de pensée extrêmement contradictoires, a priori, et le fait de les mettre en présence, de pouvoir passer de l'un à l'autre, ça permettait de vivre ces deux réalités, d'accompagner ces deux pensées et du coup de trouver, peut-être grâce à ce dialogue qui se met en place, à des ponts. En lisant ce livre, du coup, j'ai eu envie d'en faire un film, puisque j'ai vu à peu près toutes les images qui pouvaient naître d'une telle situation. Voilà, l'envie du film est née quasiment simultanément à la lecture, en fait. Je n'attendais pas la fin du livre pour me dire, tiens, j'ai envie de l'adapter. En le lisant, je me le disais déjà.
Plus qu'un message, moi, je crois que j'ai voulu lui faire vivre une expérience qui est celle du dédoublement, celle du double regard, parce que dans ce conflit, comme dans beaucoup de conflits brûlants, Il y a souvent la tentation de se situer d'un côté et contre l'autre. Et moi, ma position est celle d'une double empathie. J'avoue que je comprends ce que vivent les Israéliens au quotidien et je comprends ce que vivent les Palestiniens au quotidien. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette dimension humaine de confrontation à une réalité qui est parfois banale et puis parfois terrifiante ou très violente. Et j'ai envie, moi, de partager ça.
Que t'as, tu comprends ça? En guerre.
Pas conduit danger,
donc,
hein.
Tu communiques avec, tu sais même pas avec qui.
Aucun mal de toi depuis une semaine. Je m'inquiète. Dis-moi juste si tu vas bien.
Trop dur à Gaza en ce moment. Je ne peux pas te raconter. Mais si tu veux savoir des choses sur moi, je m'appelle Naïm El Farjouri. Et maintenant, j'ai un ami à Jérusalem.
C'est un livre pour la jeunesse quand même à l'origine et vous en avez fait un film que moi j'ai trouvé très adulte par rapport à la question de l'adaptation. Comment est-ce que ça se passe en fait? Comment faire pour vous ne pas avoir l'impression que votre œuvre est dénaturée? Et comment faire pour vous avoir l'impression de faire votre film?
En fait, le livre était effectivement un livre pour adolescents parce qu'il me semblait que quelque chose de la naïveté, de la générosité de Tal et de son désir de changer le monde correspondait bien à ce que j'avais envie de mettre dans un livre pour adolescents. Et ensuite, lorsqu'on est passé à l'adaptation avec Thierry, on s'est dit qu'on avait envie d'aller plus loin et de creuser peut-être certaines choses qui n'étaient pas dans le livre ou qui étaient seulement effleurées, comme par exemple le déchirement intérieur de Tal entre son frère, qui est soldat, et Naïm, qui est à Gaza. Le sentiment de trahir tantôt l'un, tantôt l'autre, des choses qui sont très difficiles à vivre et qui étaient moins dans le livre. Il y a eu une sorte, dans l'adaptation, une sorte de... On est allé vers la maturité du sujet sans dénaturer le livre, parce que je crois qu'on est resté fidèle à son émotion. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de trahison. On a travaillé ensemble et tout ce qui est dans le film, je le revendique autant que Thierry ou je l'assume autant que lui. Mais je pense vraiment que le travail a été, oui, d'aller vers plus de maturité. Et puis, il y a des choses qui passent très bien par les mots et à l'image, peuvent être vraiment ridicules. Donc, notre parti pris a été de raconter la même histoire, de se mettre dans la même situation que le livre et en même temps de s'en détacher dans son côté parfois, oui, peut-être un peu naïf, justement. Ce qui en fait à l'arrivée un film pour tous. Enfin, effectivement, ce n'est pas un film pour ados, c'est un film que les adultes ont du plaisir à voir, et à notre grande joie, que les ados, lorsqu'on les y emmène, ont du plaisir à voir aussi.
Oui, et puis pour moi, en fait, il n'y a pas d'histoire spécialement destinée aux adolescents, d'autres destinées spécialement aux adultes. Voilà, à partir du moment où une histoire porte quelque chose de fort, je pense qu'elle est destinée à tous les publics, et c'est le cas. Du coup, on ne s'est pas vraiment posé cette question-là, et moi, quand j'ai lu le livre, je n'ai pas lu le livre d'un adolescent, j'ai lu une œuvre littéraire et je l'ai pris comme telle. Mais en fait, quand on est lecteur, on profite d'un livre pour tout ce qu'il nous apporte. Et le film, du coup, c'est naturellement destiné à tous les publics.
Voilà, donc Une bouteille à la mer de Thierry Binisti, ça passe au Diagonal, ça vient de sortir.
Sine extenso.
C'est un état d'esprit.
Sur Divergence FM.
Je m'appelle donc Jacques Choukroun. Moi, je suis vice-président de l'association Regard sur le cinéma algérien. Je connais le cinéma algérien depuis 45 ans. C'est-à-dire que j'étais chroniqueur moi-même de cinéma, dans un journal qui était le grand journal de la gauche algérienne, qui s'appelait Algérie Publica. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu tous ces cinéastes, dont Merzak Alouache, qui était à l'époque étudiant en cinéma.
Alors effectivement, le festival est lancé donc ce soir. Nous sommes lundi avec le film de Merzak Alouache, que par ailleurs vous distribuez avec votre société distribution. Mais alors, on a l'impression quand même que le cinéma algérien n'est pas si énorme, enfin en termes de production. Mmh. Alors comment vous faites, parce que ce n'est pas la première année qu'a lieu cette édition, donc comment vous faites pour trouver des films et quels sont les critères finalement?
Ça dépend des années. Là, c'est une année spéciale quand même, je l'avais dit lors de la présentation. C'est que nous sommes l'année 2012. L'année 2012, ça représente le 50e anniversaire de la naissance, en tout cas pour moi, personnellement avec beaucoup d'émotion, de la République algérienne démocratique et populaire. Donc, avec l'association, nous avions convenu que nous n'allions pas traiter de la guerre d'Algérie, des histoires constamment dont on parle dans les journaux, mais de dire, si vous voulez, 62, on peut le prendre de deux manières. Soit on le prend comme la fin de la guerre d'Algérie, soit on le prend comme le début d'une autre aventure, d'une autre histoire. Et c'est ce choix-là que l'association a fait. C'est pourquoi, d'ailleurs, vous voyez dans le titre du cinquième regard, ça s'appelle « 50 ans de création ». C'était donc pour nous un moment pour réfléchir, un moment de bilan, pas une vraie rétrospective, parce qu'il fallait faire beaucoup de moyens, mais un regard en arrière sur 50 ans de cinéma, avec justement le dernier film algérien, vraiment le tout dernier, il n'est même pas sorti encore hors des festivals. Donc moi j'étais très content que Merzak Alouache ait accepté de le présenter ce soir. Et d'autre part, à la fin, on va essayer, je pense en clôture, de présenter le célèbre chronique des années de braise de Lagda Rabina, de Mohamed Lagda Rabina, qui est la palme d'or, la grande palme d'or algérienne, et qui raconte l'histoire de l'indépendance.
يوم بالحرام وبالثلاث والستين ثلاث تعرم بالزول ثم يا العرض اللي مات فيها اخويا على جال كترة ماء الى زد قاعد فيها.
Alors l'idée de la programmation est simple. On a essayé à partir du cinéma, c'est un cinéma, le cinéma algérien, qui a toujours eu un lien avec son histoire, avec l'histoire du pays. Donc on a eu l'idée de traiter des 5 décennies, donc des 50 ans, avec des films. Donc vous avez, en tournant les pages, vous voyez Chronique des années de braise et Margaret Lato, qui est le premier film de Merzak Alouache, qui sont donc les années 60-70. Ensuite, on a pris les belles années du cinéma algérien avec une chance que le 2 février va venir M. Farouk Beloufa avec son film Nahla, qui est un très beau film, qui est un vrai mythe du cinéma algérien, mais qui était très difficile à avoir. Et la Cinémathèque française a accepté de prêter le film à l'auteur pour le présenter à Montpellier le jeudi 2 février. Alors, nous sommes très, très, très fiers de ça.
Bienvenue à vous tous. Nahla de Farouk Beloufa est un film culte du cinéma algérien. Et son réalisateur, dont l'œuvre a toujours été entravée ou réduite à des diffusions confidentielles, jouit d'une réputation considérable.
Ensuite, nous allons présenter aussi le film de Mohamed Chouir, qui s'appelle Youssef. Youssef est un film qui raconte l'histoire d'une désillusion. Certains disent que c'est une métaphore de la mort de Boudiaf. Enfin, donc un film sur les années 80-90. Puis ensuite, nous avons passé deux films qui sont symboliques des années 90-2000, dans la période dite que les Algériens appellent la décennie noire, La Montagne de Baïa, qui est un des premiers grands films dans l'univers amazigh, berbère, et puis El Manara. D'accord ? Et ensuite, on terminera par deux films très contemporains, La Place.
Comment va M. Sarkozy ? How is Mr. Obama ?
عند مستر بوش ما يسحق شوية سبات
شكونو ما كوميتي
لا 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 لا
شكونو ما كوميتي
لا 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 لا
يا كاواساكي شكوي مقطع
اي تاكسيفون
écoute est-ce que tu peux passer Moussa moi je dois quitter cet endroit et je dois lire ce putain de camion à Tambouctou ce n'est pas peut-être et ce n'est pas Inch'Allah
en fait c'est un programme très multiforme qui a lieu à Montpellier mais aussi
à Narbonne, à Perpignan, à Béziers, au Vigan, à Clermont-l'Hérault, à Prades-le-Lez, à Frontignan, à Lunel, etc., etc.
Non, mais c'est très, très important. C'est très, très important. Si nous n'étions que Montpellierin, j'allais dire, enfin, en tout cas pour moi, ça aurait beaucoup moins d'intérêt. Ce sont dans des salles de cinéma que nous projetons. C'est pas dans des locaux associatifs, etc. Donc, et c'est ça qui est très intéressant. C'est pour nous, c'est de faire connaître un cinéma qui n'est pas toujours bien programmé en France, mais qui existe quand même. Alors, naturellement, il n'est pas, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas un cinéma très productif. Hein. Il produit 2-3 longs métrages, en gros 3 longs métrages par an, certaines années 5 ou 6, mais voilà. Mais cette année, on a essayé de faire quand même quelque chose qui a une cohérence, avec quand même 2 ou 3 films nouveaux que personne n'avait eu comme, normal. Bon, ça, c'est la grande chance. Mais aussi Taxi Fun de Mohamed Soudani. Et puis La Place, qui a été vue qu'en fait qu'à Montpellier.
Pendant le Cinémed, c'était il y a déjà 2 ans. Hein.
Il était au Cinémed en 2010, mais on l'a passé ici l'année passée aussi à Diagonale. Mais il n'est passé qu'à Montpellier. Donc je dis toujours ça, parce que les gens me disent « Oui, mais on l'a déjà passé ». Je dis « Non, mais c'est à Montpellier qu'il a été passé, vous voyez ». Par contre, à Perpignan, ils vont le découvrir.
Et ils vont découvrir d'ailleurs une comédie musicale. Donc c'est vrai que c'est la première comédie musicale d'ailleurs algérienne, me semble-t-il. Hein. C'est ce qu'annonçait le réalisateur quand il était là au cinéma.
C'est la première comédie musicale au sens vraiment comédie musicale. C'est-à-dire pas un film chantant, c'est-à-dire qui chante, qui danse, et dont le scénario est appuyé là-dessus. Je crois qu'il a raison de dire que c'est la première comédie musicale dans ce sens-là. D'ailleurs, au moment de la sortie du film national, le 8 février, on espère bien sortir, je parle pour les radios, là, on vous l'enverra, la bande originale du film. Les techniciens travaillent à sortir un petit CD de promotion qu'on va envoyer justement aux radios libres, etc. Parce que quand même, beaucoup de gens n'ont pas fait attention au générique. Mais en fait, les musiciens qui ont fait le film La Place, c'est des stars.
Qu'on précise, La Place au Cinémed, il y a 2 ans, a remporté un prix pour la musique.
Prix de la musique du JAM. Oui, il a eu le prix de la musique du JAM. Et d'ailleurs, je crois que ça va être sur toutes les affiches, etc. On va le prix de la musique, parce que ça nous a amusé de communiquer. Ça me semble pertinent de communiquer sur le fait qu'une comédie musicale ait le prix de la musique.
Bien, ouvre tes oreilles.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Comme je choisis une femme. En prenant des risques.
Cinextenso.
Non !
Petit cinérama.
Si putain, je mets la main sur ce salopard qui a fait ça, mais moi je lui démette la gueule.
Oh non, je trouve la situation vachement excitante.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange.
Cinextenso, sur Divergence FM.